enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était plutôt allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Père, je prie, Seigneur, pour cette parole qui va être prêchée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, afin que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence, Seigneur, de pouvoir parler, Seigneur, selon ce que tu veux enseigner, Père. Je prie, Seigneur, afin que tu donnes un esprit de sagesse et de révélation parmi ton peuple, Père. Illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance et les richesses que tu as pour chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que tu puisses agir encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par cette parole, Seigneur. Que tu puisses répondre aux besoins de ceux qui ont besoin de quelque chose, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu as la solution à nos problèmes, Seigneur. Étends ta main maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour ton amour et ta fidélité. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Vous savez, cette histoire, je l'aime. Parce qu'elle montre énormément de choses. Elle explique ce que nous devons faire et ce que nous devons comprendre des fois dans la vie chrétienne. Vous savez, je vais intituler ce titre, c'est « Qui m'a touché ?» Quand nous lisons cette histoire, ce qui est surprenant, c'est la partie où Jésus dit « Qui m'a touché ?» Rappelez-vous de ce mot-là, « Qui m'a touché ?» Vous savez, quand Jésus était là, à Jérusalem, il avançait pour y aller, tout le monde savait qu'il guérissait. Tout le monde savait qu'il était le Messie, qu'il était venu pour apporter le bien. Alors il devait avoir une foule. La salle devait être remplie. Les rues devaient être remplies. Parce qu'il avait même du mal à marcher. Cette femme arrive. Elle a une perte de sang. Elle arrive et elle le touche. Et Jésus se tourne en cherchant « Mais qui m'a touché ?» Il pose une question aux disciples. Il dit « Qui m'a touché ?» Mais les disciples disent « Mais Seigneur, regarde le monde qu'il y a. Mais tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Regarde comment on est pressé, comment on est serré. Comment veux-tu qu'on sache qui t'a touché ? » Moi, je suis un disciple, je dis, mais Jésus, tu dois être fatigué aujourd'hui. Non, tu dois être fatigué parce que, sincèrement, regarde le monde qui te presse. Regarde. Moi, je me suis déjà retrouvé dans une foule, je sais ce que ça fait d'être serré, d'être confit. Regardez des fois quand on va au travail, on prend le train, quand il y a la grève. Regardez comment on est confit, serré. Vous n'allez pas dire aux gens, mais qui m'a touché ? Tout le monde vous touche. Vous êtes l'un sur l'autre, tout. Et je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur Jésus pose cette question ? Et pourquoi ses disciples qui sont à côté lui disent, mais Seigneur, mais tu vois pas que tout le monde te touche ? Mais pour quelle raison ? Et c'est là où justement on va rentrer dans cette réponse-là, dans ces questions-là. Pourquoi ? Pourquoi seulement cette femme ? Parce qu'il devait avoir une foule entière, mais une seule femme. La Bible ne parle pas d'une autre, ne parle pas de plusieurs qui ont été guéris à ce moment-là. Il dit une seule femme l'a touché. Une seule femme. Parce qu'il dit, mais qui m'a touché ? C'est la seule femme qui a produit, c'est moi, Seigneur. Il lui a dit quoi ? Va, ta foi t'a sauvé et t'a guéri. Va en paix. Il a répondu qu'à une femme. Mais je me suis posé encore cette autre question. Ces gens-là qui étaient autour d'elle, de lui, ne voulaient-ils pas être guéris ? Mais pourquoi Jésus, justement, parle de cette histoire-là seulement ? Il reste sur cette histoire-là. Mais pourquoi seulement cela ? C'est là-dessus où justement on va rentrer. Et c'est ça que des fois quand nous lisons la parole, nous devons nous poser des questions. Nous ne devons pas seulement le lire comme un roman. Nous devons se poser la question, pourquoi le Seigneur a mis cela dans cette parole ? Pourquoi dans Marc 5, il aurait pu parler de beaucoup de choses ? C'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu a fait tellement de miracles que même les bibliothèques n'auraient pas pu remplir tout ce qu'il a fait. Même le monde ne peut pas le remplir, ne peut pas contenir ce qu'il a fait. Et pourtant, cette histoire-là, il le met dans la parole de Dieu. c'est qu'elle a beaucoup de choses à nous enseigner et à nous révéler. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je vous conseille, quand vous lisez la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Vous savez, moi, je ne lis pas la parole de Dieu comme cela. Avant, je le faisais. Mais quand je lis la parole de Dieu, je dis, Saint-Esprit, enseigne-moi ce que tu veux m'enseigner. Il y a des fois, nous passons des chapitres sur chapitres. On ne reste pas marqué. Mais il y a des moments où quand on lit quelque chose, il y a quelque chose qui reste dans la tête. C'est parce que Dieu veut qu'on le travaille. Dieu veut qu'on le moule. Vous savez, c'est comme quand vous faites un pot. On a tous fait du pâte à sel. On a tous travaillé ça à l'école. Vous voyez, quand on fait la pâte à sel, elle se transforme, elle se fait, mais on la forme. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous dans la parole de Dieu. Et il veut nous former à quelque chose, à un but précis, à nous apprendre quelque chose pour qu'on fasse un pas de plus. C'est pour ça que je veux justement qu'on s'attarde à cela. Comme je disais, qui m'a touché? Posez-vous cette question. Imaginez-vous dans cette situation-là, justement. Il y a Jésus qui arrive. Là, on est tous là. Vous m'écoutez, mais vous courez tous vers lui, n'est-ce pas? Si Jésus arrive là. Comme tout le monde, et c'est normal. Mais il dira à qui? Qui m'a touché? Lequel d'entre vous, Dieu dira, qui m'a touché? Parce que vous savez, là, nous, on imagine qu'ils sont peut-être que 50. Moi, j'imagine qu'ils sont 100, qu'ils sont 1000. Vous savez, moi, j'ai assisté à des réunions de grands prédicateurs. Des bénignes, des crèfles au dollar, je peux vous dire, pour rentrer. Ah, il faut se battre, hein. Ah, imaginez quand Jésus marchait dans la rue. En plus, ce jour-là, il allait pour aider la fille de Jairus. Il marchait là-bas. Et tout le monde savait qu'il était là. Tout le monde s'est mis au pied de la porte. Et là, il a dit, qui m'a touché? Oh, les disciples qui étaient là, ils disent, mais Seigneur, mais tu vois pas le monde qui te presse? Mais tu vois pas le monde qui te presse? Mais comment tu veux qu'on sache qui t'a touché? Tout le monde est en train de te toucher. Tout le monde veut toucher quelque chose de toi parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Mais pourtant, il n'y en a qu'une seule femme qui a réussi à te toucher. Vous savez, moi, souvent, je me suis posé des questions sur mes prières. Souvent, je me suis dit, Seigneur, quand je prie, laquelle t'honore? Quelles sont les prières? Parce que c'est ça qu'il faut se poser la question. Souvent, quelle est la prière qui honore Dieu? Je sais que vous avez la réponse. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut la foi. Mais comme je dis dans une salade, tiens que de la salade verte. On n'est pas des lapins, on ne mange pas la salade verte. Il faut des ingrédients avec. Et dans la foi, il y a certains ingrédients qui vont nous aider justement à pouvoir toucher le cœur de Dieu. Parce que la foi, c'est trop complexe. Quand on lit ça, la foi toujours plus grande. Quand on se dit, mais cet homme, Smith, on se dit, mais comment il a fait pour agir? Mais les gens, s'ils ne savent pas, s'ils n'ont pas lu, ils ne connaissent pas l'histoire de Smith. Smith, le premier livre qu'il a lu, c'est la Bible. Le dernier livre qu'il a lu, c'est la Bible. Vous voyez la différence? Il a appris à lire avec la Bible. Il est mort en lisant la Bible. Alors, quelle est la différence? Parce que la Bible dit que la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors cet homme, il avait une telle foi. Pourquoi? Parce qu'il lisait la Bible. Et ça, c'est important. Mais nous allons revenir à cette histoire qui est très importante. Revenons. On va revenir au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. On va rester là-dessus. La première chose que j'ai appris dans cette histoire, quand je la lis, c'est que nous devons reconnaître qu'on ne peut rien faire. Ça, c'est très important. Nous devons reconnaître qu'on ne peut rien faire. Vous savez, on ne peut pas aider Dieu. Comprenez bien cela. On ne peut pas aider Dieu. Dans 2 Chroniques 7,14, il dira... Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, je l'exaucerai. Vous savez, l'humilité, c'est bien plus qu'on le croit. Nous croyons des fois humbles, parce que nous disons oui, nous croyons en Dieu. Mais quand les problèmes arrivent, nous voulons aider Dieu. Nous disons oui, Seigneur, mais on sait comment on va faire. On va agir comme ça et comme ça. Mais le Seigneur dit non, laisse-le-moi. Laisse-le-moi faire. Toi, tu ne peux rien faire. Moi, je t'ai déjà donné quelque chose. Un doux joug. Vous savez, quand le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », je peux vous dire, la vie nous rend fatigués. Toute la vie, ce qu'il y a sur cette terre, des fois, est fatigant. C'est vrai que quand on voit le soleil, on se lève, on est heureux. Mais des fois, le travail, la famille, les amis, nous épuisent. C'est vrai. C'est la réalité. Et nous épuise. Mais de quelle manière? Parce que des fois, ils sont contraires à ce qu'on croit. Des fois, on essaie d'avancer, on a l'impression qu'on n'avance jamais. Vous savez, comme j'ai dit le week-end dernier, quand j'ai témoigné, mon petit frère m'a prêché l'évangile. Il y a 12 ans. Deux ans après, il a abandonné Dieu. Il a fait son chemin. Il a continué. Lui, il est parti faire des choses qui ne sont pas correctes. Il est allé très très loin. Vous savez, ma femme et moi, on priait souvent pour lui. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, laisse-moi faire. Et j'ai dit, Seigneur, ça fait 10 ans que je te laisse faire. Je priais. Mais le Seigneur dit, non, tu ne m'as pas laissé faire. Tu as voulu faire comme toi tu pensais. Comme toi tu penses comment la personne va être touchée. Vous savez, la manière comme Dieu fait est la meilleure manière. Nous pensons qu'on va toucher les personnes en disant, on va dire ça. On va faire comme si. Non, c'est faux. Laissez toutes ces choses-là. C'est pour ça que la Bible dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie. S'humilie, c'est-à-dire laissez Dieu faire à sa manière. Nous ne sommes pas plus que Dieu. Aucun de nous connaît le cœur de l'homme mieux que Dieu. Est-ce que nous connaissons le cœur de ces gens qui ont abandonné la foi? Qui ne sait pas combien ils souffrent? Parce que la manière comme ils nous projectent, quand on les voit, la projection qu'on a d'eux, ils sont heureux. Mais je peux vous dire, quand on a accepté le Seigneur dans le cœur, ce n'est pas la même chose. C'est comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand les vents, on a l'impression qu'ils sont tous les jours heureux et que nous sommes ceux qui souffrent le plus. Mais moi, je peux vous dire une chose. Moi, je travaille dans un milieu où les gens ont beaucoup d'argent. Je peux vous dire, l'argent ne fait jamais le bonheur. L'argent, il contribue, mais ne fait pas le bonheur. Parce que je peux vous dire, avoir autant d'argent et le dépenser comme si c'était un euro, je peux vous dire, c'est très triste. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont rien. Ils n'ont qu'une seule chose, le jeu, pour le plaisir. Alors je peux vous dire, personne ne connaît le cœur de quelqu'un si ce n'est Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laissez Dieu faire. Priez pour la personne, mais laissez Dieu faire. Moi, pour mon frère, le Seigneur m'a dit, mais tu tiens encore les choses. Vous savez, c'est comme un peu la femme de Lot. La femme de Lot voulait partir de Sodome, mais elle tenait derrière. Elle regardait en arrière. Elle dit, oui, mais regarde derrière. Regarde comment ça se passe. Regarde. Regarde là-bas comment c'est mieux. Regarde, moi je priais pour mon petit frère et je dis, ouais, Seigneur, ouais, regarde comment il était avant, regarde. Et plus je voyais avancer, plus je voyais s'empirer sa vie. Je dis, ouais, non, c'est pas possible. Il peut pas devenir comme ça. Et moi je disais, Seigneur, regarde, est-ce que je peux faire ci? Peut-être si je le trouve du travail. Et je lui ai trouvé du travail. Mais ça n'a rien fait. Je dis, bon, peut-être s'il s'éloigne de la région, ça va l'aider. Ça n'a rien fait. Il n'y avait qu'une chose à faire, laisser tout entre les mains de Dieu. Mais comment laisser entre les mains de Dieu? Vous savez, moi je crois une chose. Souvent, dans mes prières que je faisais, je prenais, c'est comme un déchet. On jette le déchet dans la poubelle, mais on ne sort pas de la pièce. Avant de sortir de la pièce, on reprend le déchet, et on se le met dans la poche et on sort. Vous savez, la prière, c'est comme quand vous avez un déchet. Vous le laissez entre les mains de Dieu. Vous le déposez. Vous ne savez pas où ça va le déchet. On sait tous où ça va. Vous le laissez et vous partez. Et vous laissez Dieu agir. Et vous croyez en Dieu. Et vous savez, la semaine dernière, mon frère s'est retourné. Il est retourné vers Dieu. Et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris, c'est ça. Et cette femme, dans cette histoire, si on regarde bien, elle avait tout dépensé. Elle a dépensé tout son argent. Elle n'avait plus sur quoi s'appuyer. Et des fois, c'est ce qu'on a besoin. De ne plus s'appuyer sur quelque chose. Mais de s'appuyer que sur une chose, sur Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est notre soutien. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que pendant 10 années, on est en train de sourire avec ma femme. Dire oui, tout va bien. Parce que ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est nier le problème. La foi, c'est affronter le problème. Comprenez bien une chose. Quand Dieu a dit, par ses meurtrissures, elle a pris nos maladies. Il n'a pas dit que nous ne sommes plus malades. Mais il a dit, par ses meurtrissures, elle a pris nos maladies. C'est-à-dire que nous sommes malades, mais nous savons que Dieu va nous guérir. Comprenez? C'est ça la différence. Et la différence de la foi, elle est là. Beaucoup de gens font le contraire. Beaucoup de gens, quand ils disent « Oui, j'ai prié pour cette situation », maintenant, il n'y a plus de situation. C'est faux. La situation est là. Et le diable va te montrer encore plus la situation. C'est comme cette montagne. Elle est là. Mais Dieu va t'aider à la gravir. C'est ça la différence. Et c'est comme ça. Et elle avait compris cela. Elle a dit « Voilà, maintenant, j'ai tout dépensé. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais. Mais à la place d'aller de mieux en mieux, ça allait de pire en pire. » Et des fois, c'est ce qui arrive dans nos prières, n'est-ce pas? Des fois, quand on prie, à la place d'aller justement tout droit, on va en arrière. On se dit, c'est pas possible. Moi, on me prêche toujours sur la foi. On prêche, oui, Dieu est celui-là qui soutient. Dieu, c'est vrai. Mais je peux vous dire une chose. Il y a la vérité et la réalité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et elle est vraie. Et la réalité de la vie qui nous rattrape plus vite qu'on le croit. Ça, ça fait une différence. Et ça, c'est là où justement le diable arrive, des fois, à nous détourner du regard de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui tourne son regard vers l'Éternel, il est rayonnant de joie. Il est rayonnant de joie. Comprenez bien une chose. Je sais que des fois, c'est pas facile d'être joyeux. Je ne demande pas aux gens de se forcer. Nous ne sommes pas en train de dire oui, il faut vivre une foi toute pleine, heureuse, pleine de joie. Non. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est facile. Mais quand les moments sont difficiles, c'est là où il faut justement puiser sur la parole de Dieu, trouver la solution et que Dieu nous aide. Nous, pendant 10 ans, ce n'était pas facile de prier. Chaque fois qu'on le voyait, il est venu à mon mariage. Je me suis rappelé ça il n'y a pas longtemps. Il a tout cassé. Vous vous rendez compte, il est venu à mon mariage, il a tout cassé. Pourtant, c'était des gens avec qui il priait avant. Il a tout cassé. Les gens, alors, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Pas, c'est fini pour lui. Mais vous savez, nous on pense que ces mots viennent et ça va partir. Mais chaque fois que je priais, ces mots revenaient. Le diable a une mémoire. Hein. Vous savez, nos pensées aussi ont une mémoire. On se rappelle toujours plus des mauvaises choses que des bonnes choses, malheureusement. Et là, quand je priais, il disait, oui, mais tu te rappelles, il a tout cassé. Il a fait ceci. Des frères en Christ et des sœurs en Christ qui m'ont aidé au mariage. Oh là là. Quand elle a fait ça, quelle honte j'avais. Tu te rappelles? C'était dur. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait. Il a peut-être mis 10 ans, c'est pas un souci. Il peut mettre 20 ans, c'est pas un souci. Vous savez, moi j'ai appris dans la vie chrétienne. Et ça, c'est pas mon expérience, c'est parce que j'ai vu dans la vie. Vous savez, il n'y a qu'un moment où c'est fini, dans la vie. Où on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien changer à ce qui est passé. Vous savez, c'est quand? C'est quand on meurt. Parce que la Bible dit qu'il n'est permis à l'homme que de mourir une seule fois. La mort, après la mort, c'est fini, hein. La mort, c'est fini, moi je vous le dis. Mais avant la mort, si on vit encore, Dieu peut changer les cœurs. Moi, j'ai vu tellement de choses dans ma vie. Et j'espère encore voir plus de choses dans ma vie. Mais quand je vois des choses, moi j'ai le frère de mon meilleur ami, il était atteint d'une maladie, d'un cancer. On a prié pour lui. Dieu l'a guéri. Vous savez, Dieu l'a guéri. Quand je vous dis guéri, c'est pas une petite truc. Dieu l'a guéri. Vous savez ce qui s'est passé après, 3 mois après? La personne m'appelle, sa femme me dit qu'elle est morte, qu'il est mort, 3 mois après. Elle vient me voir, elle me dit, Pat, moi j'ai dit, je n'ai pas la vie entre les mains. Mais sache une chose, il a accepté le Seigneur. Et c'est ça la plus grande différence. Vous savez, notre plus grande joie, c'est que les gens acceptent le Seigneur avant de mourir. Moi j'ai un autre ami, vous savez, quand je me suis converti, je l'ai rencontré dans la rue, on parlait de Jésus. Il me dit, oui, j'ai pas le temps. Vous savez, il est parti. Il a fait de la moto. Il fait un accident de moto. On m'appelle, on me dit, oui, il a eu un accident de moto, tout. Ouais, ça me rendait triste. Il était parti à l'hôpital. L'hôpital a dit, non, il n'y a rien, il est rentré à la maison. J'ai voulu l'appeler, sa mère m'a dit, non, tu verras demain, tout, il dort. Vous savez, le lendemain, la seule chose que j'ai vue, c'est la mort. Hein. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quand on entend l'évangile de Dieu, il n'y a pas de hasard. Je peux vous dire, avec toutes ces expériences que j'ai eues, il y a des fois où j'ai prié pour des gens où ils n'ont pas été guéris, ils sont morts. Vous pensez que si je regarde derrière moi en disant ça, plus mon passé que la parole de Dieu est vraie, qu'est-ce que je croirais? Moi, je crois en ce que Dieu guérit. Moi, je le crois de tout mon cœur. Ne me demandez pas pourquoi des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Parce que moi, je sais que ça marche tout le temps. Il y a des gens que j'ai vus, ça n'a pas marché. Mais je ne me suis pas posé la question. J'ai dit, ça ne fait rien. On continue. Il faut continuer. Et c'est ça que je veux dire. Les échecs du passé aussi ne vont pas vous aider. Pourquoi je veux venir à ce sujet-là? Parce que la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie. Des fois dans la vie, il y a des fautes ou des erreurs qu'on fait. Mais Dieu ne regarde pas cela. Comprenez bien. Dieu ne regarde pas nos fautes. Parce que souvent les gens croient que quand il est mort sur la croix, il n'a effacé que les péchés du passé. Non, il efface aussi les péchés du futur. Parce qu'on fait tous des fautes. Parce que la Bible dit qu'aucun homme n'est parfait. On fait tous des fautes. Alors comprenez bien cela. Regardez qu'à Dieu. Ne regardez pas seulement à ce que vous, vous pouvez faire, mais regardez à ce que Dieu peut faire. Et quand on a regardé à Dieu, et que mon frère a donné sa vie à Dieu, j'ai dit, ça c'est la main de Dieu. Il n'y a personne qui peut faire comme ça. Parce que moi, la manière comme je voulais faire, ce n'est pas comme ça que Dieu voulait faire. Mais Dieu a agi. Et cette femme a fait cette démarche. Elle dit, bon, j'ai dépensé tout mon argent maintenant. Je ne peux plus m'appuyer sur quelque chose. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller rencontrer cet homme. Et il l'a fait. Et elle l'a fait. Elle a marché, elle a dit, bon, ayant entendu parler de lui, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière. On va s'arrêter là-dessus. Ayant entendu parler de Jésus. Deuxième solution à pouvoir mettre dans cet ingrédient de la foi, qui est la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons entendre la parole de Dieu. Mais comment? En lisant la parole, en l'étudiant, en la méditant jour et nuit. C'est ça qui fera une différence. Vous savez, quand moi, je suis face à quelqu'un qui est malade, je ne dis pas seulement « Jésus va te guérir », parce que c'est trop facile. C'est vrai. Nous devons faire grandir sa foi. Nous devons l'amener dans cette direction-là. Mais comment? En lui montrant dans la parole de Dieu les guérisons qui ont été faites. En lui montrant que ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui encore. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et demeure. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Beaucoup de gens en doutent. Moi, j'en doute pas parce que je l'ai vu. Vous voyez? C'est ça qui a fait la différence. Elle a entendu parler de cet homme. Elle n'a pas dit « Oui, il y a Jésus qui est là ». Elle n'a pas entendu seulement cela. Elle a dû entendre « Oui, ce Jésus est guéri. Ce Jésus peut t'apporter la solution. Jésus peut apporter la solution à toi qui es malade. Jésus veut t'apporter cette solution. Mais il faut que tu viennes. Viens !» Et je pense qu'à un moment donné, elle a dû dire « Ah, il y a quelque chose qui a dû grandir en elle. Il y a dû quelque chose qui a dû grandir. » Parce que vous savez, nos pensées, c'est le premier obstacle de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit que toutes vos pensées soient pures, dignes de louange, dignes d'adoration et de sainteté. Pourquoi? Parce que dans cette pensée-là, vous allez agir par rapport à ce que vous, vous pensez. Si je vous dis que la guérison n'existe pas, vous allez croire que la guérison n'existe pas. Si vous, vous le pensez, elle ne va jamais agir. C'est ça qui fait la différence. Pourquoi? Parce que nos pensées nous conduisent, nos pensées nous dirigent vers des voies. Si vous pensez que toutes vos prières que vous avez faites, il n'y a pas d'exaucement, ça ne va pas être exaucé. Vous voyez? Ça, c'est très important à comprendre. Nous devons justement entendre la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. Comme je disais tout à l'heure, Smith Wigglesworth était un homme qui lisait. J'ai bien aimé le témoignage de Tim tout à l'heure. Et je l'avais lu sur un livre. Cet homme, c'était Lester Sumrall. Il voulait rencontrer Smith Wigglesworth. Il arrive devant sa porte et il frappe. Lui, il avait toujours son journal, le Tribune, comme le Parisien, si vous préférez. Il arrive devant sa porte, il va pour rentrer, Smith lui ouvre la porte. Il lui dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est les nouvelles, c'est le Parisien. Il dit, non, laisse-le au pas de la porte. Il s'assoit avec lui, il mange, tranquillement. Après, il dit quoi? Smith dit, voilà, on a bien nourri notre chair, maintenant nourrissons l'esprit. Il prenait la parole de Dieu et la lisait. Et il le faisait partout. Quand je dis partout, c'est partout. Si vous êtes au McDonald's, ouvrez la Bible. Il faisait ça. Il n'avait pas le temps, lui. Il avait compris que ça, c'était sur lequel il devait s'appuyer. Il sait que c'était ça qu'il faisait marcher. Et Smith était ça quotidiennement. Même Lester Sumrall dit dans son livre. Il dit, oui, il m'a épaté. Tout ce qu'il faisait n'était que pour un but, pour la gloire de Dieu. Il avait un tel amour. Beaucoup de gens parlent de sa foi. Moi, j'ai un livre de lui qui parle de l'amour qu'il avait. Vous savez, cet homme, il passait du temps avec Dieu. Il passait quotidiennement du temps avec Dieu. Lui, il se nourrissait que d'une seule chose, de la parole de Dieu. Il connaissait la parole, mais il ne connaissait pas comme nous, des fois, nous connaissons. Nous, nous connaissons des versets par cœur, mais nous en oublions le sens. Nous oublions des fois le sens de la parole de Dieu. Vous savez, les versets... Moi, j'ai un ami qui connaît par cœur les versets de la parole de Dieu. Mais des fois, il en oublie le sens. Il en oublie le sens. Je vais donner un exemple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout le monde le connaît ici. Tout le monde sait ce que Jésus a accompli sur la croix. Mais nous oublions le sens de ce que Christ a fait. Christ a dit qu'il a tant aimé le monde. Nous, nous ne sommes pas partis du monde? Nous n'étions pas partis du monde? Nous n'étions pas partis du monde plutôt? Pourtant, quand des fois, on voit des gens à l'extérieur, on se tient comme si oui, moi je marche avec Dieu. Mais toi, vous savez, Dieu ne fait pas de différence. Nous, nous le croyons des fois, mais Dieu ne fait pas de différence parce qu'il aime tout le monde. La seule chose que Dieu veut, ce n'est pas juger, mais c'est d'aimer. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais pour sauver. Et des fois, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Quand je dis qu'on oublie le sens, quel est le sens vrai de ce verset-là quand Dieu dit « car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils ». Quel est le sens? Ce n'est pas pour nous dire « oui, Jésus nous aime », parce que nous, nous le savons maintenant. Nous sommes cimentés dedans, nous sommes cimentés dans cet amour. Mais c'est pour dire aux autres que Dieu les aime. Peu importe les fautes et les erreurs qu'ils ont faites, Dieu les aime. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je lisais une histoire dans Enseigne-moi. Il y avait un pasteur chinois qui s'est fait emprisonner. Vous savez, il n'avait pas beaucoup de temps, tout ça. Il était emprisonné juste parce qu'il avait prêché l'évangile. Il arrive en prison. En prison, ce n'est pas des gens convenables qu'ils y sont. Ce n'est pas des gens qui ont fait que de bonnes choses. Même si la Chine, des fois, c'est un peu bizarre. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que prêcher l'évangile. Vous savez, maintenant, ils sont plus de 50 convertis. Et ils continuent encore l'œuvre. Parce qu'il a compris que Dieu ne regarde pas nos fautes, que Dieu ne regarde pas aux erreurs des gens. Mais Dieu regarde à une seule chose, à Jésus. Il y a un temps où Dieu viendra pour juger le monde. Mais ce temps n'est pas venu. Parce que là, nous vivons sur le temps de la grâce, sur le temps où justement Dieu veut sauver n'importe qui, de quoi que ce soit. Et ça, nous devons le comprendre. Et chaque fois, dans ma pensée, je m'obstine, je me force à avoir cette pensée-là, de dire que Dieu aime, que Dieu aime, que Dieu aime. Des fois, quand je suis sur la route, on me coupe le chemin en voiture. On s'énerve tous, ça arrive. Mais je repense, je dis non, le Seigneur aime, le Seigneur aime. Parce que si maintenant, un jour, je lui fais un queue de poisson, ou par simple hasard, on se met en colère, imaginez qu'il vient à l'église, il s'assoit là, qu'est-ce que je lui dis? Il dit, ah, tu sais, il faut comprendre, il y a des moments, tu vois, c'est pas la vie chrétienne. Jésus, s'il fallait qu'il s'énerve tout le temps, je dis pas que c'est facile, comprenez bien ce que je veux dire. Mais nous devons penser comme Dieu pense. Souvent, les gens disent, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Écoute bien, où que tu sois, Jésus est avec toi. Sache-le, ça. Où que tu sois, Jésus est avec toi. Là, je suis parti 4 jours en Irlande, là, en début de semaine, là. Vous savez? J'étais avec des collègues. Ah, ils m'ont eu. Hein. Ils sont arrivés à la table, ils m'ont parlé que de Dieu. Pourquoi ta foi? Pourquoi ceci, cela? Parce que j'avais déjà parlé de Jésus. Et ils m'attendaient. Et Dieu, heureusement que Dieu est avec moi. Hein. Et là, on a pu discuter. On a pu discuter. Vous comprenez? Soyez prêts. La foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Soyez prêts à parler de Dieu. Plus vous étudierez la parole de Dieu, plus vous aurez de l'amour. Et plus vous comprendrez que ces gens-là, ce qu'ils font, ils ne le font pas volontairement. Parce que la Bible dit que nous sommes esclaves de la justice. Et avant, nous étions esclaves du péché. Les gens ne pêchent pas parce qu'ils ont envie. C'est parce qu'ils sont liés par cela. Comprenez bien. Et c'est ça qu'on doit justement apprendre. Avoir de la compassion pour ces gens-là. Essayer de les aider, de les amener vers eux, vers Jésus. Parce que c'est lui qui pardonne. C'est lui qui efface ces transgressions. Moi, je crois qu'aucun de nous n'est digne. Mais nous le sommes parce que le sang a coulé. La Bible dit que le sang du bouc avant ne faisait que couvrir le péché. Mais le sang de Jésus efface nos transgressions. Pourquoi il n'effacerait pas les transgressions de quelqu'un d'autre? Moi, je vous pose la question. Pourquoi? Qui sommes-nous? Mais quand vous lisez la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu parle de la foi, mais parle aussi de l'amour. Et nous devons marcher comme il a marché, n'est-ce pas? C'est notre but. C'est ce que nous voulons. Moi, je travaille avec des collègues qui ne connaissent pas Dieu, qui sont même très loin de Dieu. Mais est-ce que je dois leur dire, Dieu vous juge? Qui suis-je? Dieu n'est pas venu pour juger. Comprenez bien une chose, Dieu est venu pour sauver. Quand nous lisons cette parole de Dieu, que nous connaissons certains versets, demandons à Dieu de ne pas oublier le sens. Moi, chaque fois, je m'efforce. Ça fait 10 ans que je m'efforce à penser et à penser que Dieu est amour. Et à penser que Dieu est amour. Vous savez, la Bible dit une phrase que j'aime beaucoup. Nous sommes spirituels, nous pouvons juger de tout, c'est vrai. Mais nous ne jugeons que des gens qui sont chrétiens, pas des gens qui ne sont pas chrétiens. Et encore, moi je ne me permettrai pas de le faire. Mais c'est de là que ça parle. Ça ne parle pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de loi. Ils n'ont rien. Ils n'ont que leur conscience. Et nous devons travailler sur cela. Très important. Mais comme je disais tout à l'heure, la foi, même ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Cette femme a entendu cette parole en disant que Jésus pouvait guérir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas restée inactive. Elle dit, bon, alors si vraiment c'est vrai. Moi, je m'imaginais, là, je dis, bon, là, j'ai essayé ce médecin-là, j'ai essayé ce médecin. Maintenant, j'ai plus d'argent. Alors, j'ai plus le choix maintenant. Si je veux être en bonne santé, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse le faire. Et je pense qu'il y a eu des voisins et des voisines qui sont venus lui dire, mais tu sais qu'il y a un homme là qui va vers Jérusalem? Cet homme-là, il peut t'apporter la solution à ton problème. Est-ce que nous faisons ça, celui qui est à notre droite ou à notre gauche? J'ai remarqué que souvent, Gladys et moi, on rencontre des gens qui ont besoin de Dieu. Quand vous écoutez leur vie, vous pleurez. Vous pleurez. Parce que la vie est très difficile. Un jour, je me suis posé cette question. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je rencontre autant de gens qui ont des difficultés avec leurs enfants? J'ai trouvé la réponse. Et quand ils me disent, mais comment toi tu fais? J'ai trouvé la réponse. Parce que nous sommes des témoins vivants. Nous devons témoigner. Parce que ces gens-là ont besoin de Dieu. Moi, je sais que l'adolescence, toutes ces choses, ce n'est pas facile. Avoir des enfants, ce n'est pas facile. Mais Dieu nous donne la sagesse d'être des bons parents. C'est seulement par sa grâce. Être des bons parents. Et un bon époux et une bonne épouse. Nous ne le sommes pas parce que nous faisons des efforts. Mais parce que quand nous lisons la parole, Dieu nous instruit. Dieu nous donne la solution. Parce que la solution est là. Et chaque fois, quand on a des difficultés avec ma femme, des problèmes, quand on lit la parole, elle nous apaise. Comme on dit, elle met la paix, elle tranche. Elle met la paix entre nous. Et c'est ça qui fait la différence. Alors cette femme, elle a entendu, elle dit, bon, on va y aller. Et elle court par derrière. Et c'est là qu'est fabuleux. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous allons continuer. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Oh, là aussi, il y a un autre secret que j'aime. C'est la confession. Nous devons confesser. Nous devons nous attendre à ce que Dieu va faire. Mais comment? Regardez bien ce qu'elle a dit. Si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je disais auparavant que la foi, ce n'est pas dire qu'on n'est plus malade. Elle n'a pas dit, si je puis seulement toucher, je n'ai pas de maladie. Elle dit, si je puis seulement toucher, je serai guéri. C'est-à-dire qu'elle connaissait son état, qu'elle savait qu'elle était malade, mais qu'il fallait qu'elle fasse encore quelque chose. Elle le disait continuellement. Si vous lisez dans Luc, elle disait plus encore plus. Dans Luc 8, 43. Excusez-moi. On va aller direct sur la 44. 8, 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Vous savez, dans Marc 5, verset 28, il disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle a fait deux choses. La première, c'est qu'elle a confessé. Et ça, c'est très important. Nous devons confesser quoi? La parole de Dieu. Nous devons confesser que Dieu peut agir. Et après, elle a touché. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Elle a ressenti qu'elle était guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a, en confessant de ce qu'elle a dit, elle a fait le geste, elle a agi. La Bible dit que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur, dans chacun de vous? Quand vous priez pour quelqu'un, ou quand vous priez pour une situation, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Si votre cœur vous dit que rien ne va fonctionner, même si vous priez, rien ne va fonctionner. Parce que c'est de là que ça parle. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Souvent, j'ai remarqué une chose. C'est que quand on est en colère, c'est là qu'on dit tout. Ah, quand on est en colère, on dit tout ce qu'on pense. On parle même d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu te rappelles quand tu m'as fait ci? Et là, tu es comme ça, tu dis, ah, mais attends, ça remonte à quand même des années. Avec un ami, un jour, ils se disputaient. Ah, ça remonte à longtemps. Il m'a dit des choses que j'avais fait en primaire. Mais j'ai dit, mais quand même, en primaire? J'ai dit, alors toi, tu l'avais dans le cœur. c'est la même chose. Cette femme, elle n'avait plus rien. Comme j'ai dit, la première chose, c'est qu'elle s'est humiliée. Elle s'est dit, là, tout est impossible devant moi. Je ne peux rien. Alors elle n'avait plus sur quoi s'appuyer. La deuxième chose, comme je disais, elle avait entendu parler de Dieu. C'est ça qui a fait la différence. Et la troisième, elle a confessé. C'est-à-dire que dans son cœur, il y avait des choses qui allaient l'aider à toucher Dieu. Examinons notre cœur. Vous savez, la Bible dit une phrase que j'aime beaucoup, que David dit. David dit, Seigneur, examine mon cœur. Examine mon cœur. Pourquoi il demandait au Seigneur? Parce que si nous-mêmes nous examinons, nous avons l'impression qu'il n'y a jamais rien. Et pourtant, il y a des prières qui tardent à venir. Parce qu'il y a un problème quelque part. Moi, je ne crois pas que Dieu échoue. Mais je crois que nous faisons échouer Dieu. C'est peut-être ça la différence. Dieu n'échoue jamais, mais nous faisons échouer Dieu. Par quoi? Des fois par les circonstances de la vie. Par les moments difficiles de la vie. Et c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans cette situation-là. C'est de rester dans cette situation, de demeurer dedans. Vous savez, tout le monde peut faire des erreurs. Mais demeurer dans les erreurs, à un moment donné, il faut grandir. C'est là qui est important. Si vous grandissez, votre cœur va grandir aussi. Votre manière de penser va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en vous et qui vont faire la différence. Cette femme, elle a dit, si je puis seulement me toucher. Et je suis sûr que sur toute sa route, elle a dit non, lui est ma solution. Lui est ma solution. Est-ce que quand vous priez, vous dites oui, Jésus, tu es ma solution? Ou est-ce que vous dites, ah, le pasteur sera ma solution? Messieurs, dames, et frères et sœurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour certains. Le pasteur ne peut rien faire pour vous. Aucun homme ne peut rien faire pour vous. Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Comprenez-le bien. Ce n'est pas parce que vous allez dans une réunion de guérison que vous allez recevoir votre guérison. Ce n'est pas parce que vous allez courir de réunion en réunion que vous allez trouver la paix. Restez à la maison. Prenez la Bible. Passez du temps avec Jésus et vous allez voir quelle est la différence. Quelle est la différence. Bien sûr qu'il est bon de venir à l'église le dimanche. Voilà, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas quitter nos églises. Je dis non, venez. Parce qu'elle dit que voici qu'il est doux et agréable que des frères se réunissent. Car là, Dieu verse quelque chose en chacun de nous. Parce que vous savez, la plus grande foi, ce n'est pas ce qu'un homme a. C'est la foi de chacun de nous qui se met pour un seul, à l'unisson, pour un seul but. Regardez bien, lisez dans Actes ce qui s'est passé. D'un même cœur, du même pensée, d'un même esprit. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est là la plus grande foi. Tu manques de foi quelque part, les gens qui sont là vont t'aider. C'est pour ça que j'aime l'onction corporative. J'aime justement être unis comme cela. Parce que c'est là que Dieu fait. Et cette femme, elle continue à marcher. Et je suis sûr qu'elle disait sans cesse, oui, je sais que si je le touche, je ferai le maximum pour le toucher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle est arrivée, elle a dit, il y a une foule. Comment je vais faire pour passer? Comment vais-je faire? Mais elle avait tellement dit que si je puis seulement le toucher, elle savait qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose de plus encore. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle fait comme nous devons faire dans la vie. Sauter les obstacles. Passer. Essayer de tout faire. Elle a dû écarter des gens. Des gens ont dû marcher sur elle. Parce qu'à l'époque, une femme qui était malade ne pouvait pas sortir. Si vous connaissez un peu les lois juives, quand les gens étaient malades, déjà c'était marqué sur eux. Perte de sang, c'est un peu comme si on était impur. Et les gens, dès qu'ils vous voyaient, ils partaient parce qu'ils savaient que vous étiez malade, que vous étiez lépreux. Les gens le savaient, alors ils ne pouvaient pas vous toucher. Parce que disaient, chaque fois que quelqu'un était malade, disaient, elle est maudite de Dieu. Parce que les gens pensaient que c'était une malédiction de Dieu. Mais enlevez ça de la tête. Parce que Dieu ne fait pas le mal. Dieu ne fait que le bien. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et ça, j'y crois. Et vous savez, alors elle était là, elle devait se dire, oui, comment je vais faire là maintenant? Il y a tellement de gens devant moi, comment je vais passer? Mais elle était tellement motivée. Elle avait tellement confessé, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Elle a sauté les obstacles. Des fois, nous, dans nos vies, on a besoin aussi de sauter les obstacles de nos vies. Nous avons besoin de franchir des paliers. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauté. Elle est passée entre plusieurs personnes. Et à ce moment-là, elle a vu la tunique de Jésus. Elle a dit, si seulement je touche le bord. Vous savez ce que c'est le bord? C'est pas beaucoup. Hein, c'est juste le petit bord, là, comme ça. Elle l'a touché. Moi, à l'époque, disons, Souvent, j'imagine. Je me fais une image de cet événement-là. Je la vois par terre en train de traîner et en train de tendre sa main vers Jésus. Ça me fait penser à nous quand nous prions. Nous devons nous humilier et dire, Seigneur, là, je ne peux plus avancer, mais aide-moi. Il y a une histoire que j'aime dans la parole de Dieu. Cet homme est venu, le Seigneur a dit, tu crois que je peux le guérir? Il dit, oui, je sais que si tu le veux, tu peux. Il dit, est-ce que tu crois? Il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est l'un des seuls passages qui est parlé. Viens au secours de mon incrédulité. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a des moments dans nos vies où nous ne pouvons pas aller plus loin que nous croyons. C'est ça l'humilité aussi. Cette femme devait être au bord, en train de dire, oui, il faut que je fasse quelque chose. Elle était comme ça en train de tendre sa main. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient là, qui devaient la pousser. Parce que vous savez, quand il y a une foule, il y a plein de gens qui sont là, qui veulent à tout prix rentrer en premier. Regardez dans le métro, quand c'est plein, on dirait que les gens, ils vont manger. Ou qui vont perdre quelque chose. Ils sont comme ça en train de courir partout, ils poussent tout le monde. Regardez cette femme, imaginez. Mettez-vous dans votre tête cette image de cette femme qui est là, qui veut être guérie, qui est là et qui voit plein de gens. Il doit y avoir des gens comme Richard, de 2 mètres, des gens aussi costauds là. Et elle devait être toute déjà malade, c'est-à-dire qu'elle devait être faible, tout. Mais elle a dit non, j'irai. Et ce que j'aime justement sur cette histoire de cet homme qui dit viens au secours de mon incrédulité, des fois nous sommes aussi à ce point-là. Nous sommes à ce point où il faut dire, Seigneur, désolé, mais j'ai du mal à te croire là. J'ai du mal à croire. Aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur ne l'a-t-il pas guéri? Pourquoi? Parce que le Seigneur aime qu'on dise ce qu'on a réellement dans le cœur. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu connaît nos cœurs. Mais Dieu veut qu'on confesse tout ce qu'on a. Et cette femme est arrivée, elle l'a touché. Et là, j'aime la phrase de Jésus. Qui m'a touché? Là, il y a un processus qui s'est passé. Et ce processus, c'est quoi? C'est quelqu'un a touché le cœur de Dieu. C'est ce que nous devons faire chaque fois quand nous prions. Nous devons essayer d'atteindre le cœur de Dieu, de toucher la main de Dieu, de pouvoir laisser Dieu agir dans nos vies, comme lui il veut, pas comme nous voulons. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste était un homme, pas comme tout le monde? Parce qu'il avait compris qu'il fallait que lui diminue afin que Dieu croie en nous. Si nous laissons croître Christ en nous, il y aura une différence. Il y aura une très grande différence. C'est pour ça que nous devons vraiment compter sur lui. Et je vais finir par cela. Vous savez, cette femme a touché Jésus. C'est pour ça que j'aime cette phrase, qui m'a touché? Les gens étaient là, les disciples étaient là. Et des fois, ça me fait penser à ces réunions où nous sommes tous là, nous nous réunissons. Nous sommes là. La musique joue. La musique joue. Les gens chantent. Les gens prient. Mais nous devons toucher le cœur de Dieu. Parce que quand nous nous levons le matin, le dimanche matin, c'est pour toucher le cœur de Dieu. C'est pour toucher le cœur de Dieu. Si nous voulons que cette nation change, nous devons toucher le cœur de Dieu. Et ça, c'est très important. Vous savez, ça me fait penser, comme je vous disais, à ces réunions-là. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui peuvent justement ne pas toucher Dieu. Et c'est ça qui me rend le plus triste. Ce qui me rend le plus triste, c'est que souvent, je rencontre malheureusement des chrétiens. Ils viennent à l'église et ils repartent comme ils sont. C'est pour ça que je voulais vous donner des 3 clés qui sont très importantes. La première, c'est l'humilité. Se rendre compte que quand on vient, qu'on ne peut rien apporter à Dieu. Qu'une seule chose, nos louanges et notre adoration. Quand j'y ai apporté, excusez-moi pour le terme, plus aider Dieu, vous ne pouvez pas aider Dieu. Parce que si on aurait pu aider Dieu, pourquoi il aurait envoyé Jésus? L'homme a voulu l'aider en donnant des boucs et des chèvres, des brebis. Ça n'a rien changé. Ça n'a fait que faire quoi? Ça n'a fait que couvrir le péché. Mais Dieu a dit, moi j'ai une meilleure solution pour chacun de vous. Je vais donner Jésus. Voilà la première chose quand nous venons. Attendons-nous à Dieu. Même quand cela est difficile, attendons-nous à Dieu. Nous devons nous humilier quand nous venons dans sa présence. Et dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire pour que ma vie change. Je ne sais pas comment agir. Mais je sais que si je viens dans ta présence, il y a des choses qui vont agir. Il y a des choses qui vont changer. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu, il m'a dit une phrase et qui restait dans ma tête. Le Saint-Esprit peut faire plus en 5 minutes que nous en 5 ans. Ne perdez pas votre temps à vouloir aider Dieu. Parce que ce temps-là, vous allez avoir pour l'éternité de vouloir l'aider. Est-ce que vous n'allez rien faire? Mais laissez Dieu faire. C'est ça qui fait la différence. La deuxième chose, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons la méditer jour et nuit. Nous devons passer du temps à la lire. Pas la lire comme un roman, mais la lire comme Dieu veut qu'on la lise. Ça veut dire quoi? Ouvert dans notre tête. J'ai rencontré un homme de Dieu qui avait plus de 40 ans de ministère. Non, 50 ans de ministère. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, cette parole de Dieu, combien de fois tu l'as lue? Il m'a dit plusieurs fois. Après, je lui ai dit, mais est-ce que tu connais la parole? Il m'a dit, je ne connais pas encore. Il m'a donné une image qui est belle. Il m'a dit, je n'ai fait que fleurer, comme j'effleure l'océan. Vous savez, là-dedans, il y a tellement de secrets. Il y a tellement de réponses aux problèmes de la vie. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir. Parce que dans l'avenir aussi, il y aura des problèmes. Ne croyez pas. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. La vie n'est pas facile. Et moi, je vous le dis, la vie ne sera pas encore plus facile qu'on le croit. Mais nous marchons avec un grand Dieu. C'est peut-être ça qui fait la différence. La troisième chose, la confession. Il faut confesser Jésus dans nos vies. Il faut dire que Jésus est la solution à nos problèmes. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous aider à aller avancer. La Bible dit dans Proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront le fruit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que par vos paroles vous serez liés et par vos paroles vous serez déliés. Proverbe 18, 21. On va lire au 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Souvent nos prières, c'est pas qu'ils ne sont pas exaucés, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir les ossements, c'est dû parce que nous confessons pas ce que Dieu dit. Comme je disais tout à l'heure, Dieu n'a pas dit qu'on ne sera pas malade, mais Dieu a dit que par ses meurtrissures, il nous a guéris. Ça, c'est une différence qui est telle. C'est ça qui fait la différence. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème, mais Dieu a dit qu'il a la solution au problème. Vous voyez la différence? Elle est grande, hein? Dieu n'a pas dit qu'on n'aura pas de problème, mais Dieu a dit qu'il est la solution à nos problèmes. Dieu n'a pas dit que vous ne serez pas malade, mais Dieu a dit qu'il est celui qui vous guérira. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider à avancer, à aller loin avec Dieu. Moi, je crois que la maladie ne m'atteindra pas. Même si elle m'atteint, je sais en qui j'ai cru et qui me guérira. Comprenez? Ça, c'est important à comprendre. Les trois points qui sont très importants. Et nous devons faire en sorte, justement, de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, ses disciples qui étaient à ses côtés disaient, Seigneur, qui m'a touché? Les disciples disaient, mais Seigneur, qui a pu te toucher? Qui a pu te toucher? Regarde tous ces gens qui sont là. Ils sont là pour un seul but, pour venir trouver la réponse à leur problème. Alors pourquoi tu dis, qui m'a touché? Parce que cette femme, elle avait compris que chacun de nous qui sommes là, nous pouvons avoir la réponse à nos problèmes. Nous pouvons avoir la réponse à nos difficultés, à nos manquements.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.